Eh bien, bonjour à tous et toutes. Bienvenue pour cette rencontre avec Chantal Pelletier et Olivier Bordassard. On va passer un petit moment ensemble autour de deux romans. Le tout dernier roman d'Olivier Bordassard qui s'appelle Appartement 816, qui est un huis clos en temps d'enfermement, double enfermement, on va en parler. Et puis Sens interdit de Chantal Pelletier qui nous emmène aussi dans un futur assez proche et avec différentes catastrophes que l'on découvre, un futur légèrement exagéré comme dans l'appartement 816, un contexte qui nous rappelle aussi les temps actuels pour différentes raisons. C'est un festival Effraction qui est placé sous le signe du réel, donc bien sûr c'est un peu le fil rouge de nos discussions, et c'est par là que je voudrais qu'on commence, par ce réel. Vos livres ont beau se passer dans un futur proche, bien sûr le lien avec le réel est là, même si quand on pense réel on pense présent. Rien n'empêche, en se projetant dans le futur, par contraste, de nous parler d'aujourd'hui. Et donc je voulais commencer en vous demandant, vous, que vous permet justement cette projection dans l'avenir par rapport au réel? Comment vous l'abordez, en fait, cette projection? À quoi elle vous sert? Et alors là, pour le coup, je vous laisse choisir qui commence.
Alors, l'idée, c'est évidemment, enfin, pour moi, de fuir le présent, sans abandonner le réel, évidemment, mais de ne pas être dans cette réverbération d'informations permanentes, et de laisser de la place à l'imaginaire, parce qu'on est dans un présent qui est tellement ressassé au niveau des idées, des informations, de ce qu'on entend sur l'état du monde et sur le monde entier, hein, puisqu'on a accès à des informations même très lointaines, que si s'évader du présent aide m'aide à construire des personnages et à échapper à cette espèce de... à ces tenailles, en fait, d'un présent trop explicite, finalement.
Olivier.
Bonjour. Pour moi, le réel, c'est une sorte de matière littéraire, mais une matière un peu particulière, parce que c'est tout le temps mouvant. Pour moi, le réel, c'est quelque chose qui fluctue au gré des interprétations, des subjectivités de ceux qui l'observent. Et donc s'emparer de ça, c'est comme s'emparer de quelque chose qui fuit un peu tout le temps, en permanence, c'est-à-dire que ça change selon les regards, les subjectivités. Enfin, voyez, là, parler de l'actualité, on a un réel complètement fabriqué, je trouve, par rapport à cette... ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Je veux dire, Poutine décide d'interdire certains mots, hein, le mot invasion, le mot victime civile sont rayés des dictionnaires, bon, dans un acte tout à fait orwellien. Alors moi, j'ai écrit quelque chose qui s'inspire très librement de ce qui nous est tombé sur la tête en mars 2020. Et j'étais en train d'écrire un roman et j'ai dû tout arrêter pour interroger ce réel-là, comment il était imposé, par quelle force, par quelle puissance, qu'est-ce qui relevait de ma propre interprétation et d'une objectivité, l'objectivité de l'existence d'un virus. Et donc, j'ai été proprement sidéré le jour où on a été informé qu'on ne pouvait plus sortir de chez soi, sauf une heure par jour, en remplissant une auto-autorisation assignée soi-même avec une croix dans une case qu'on aurait dessinée nous-mêmes. Enfin, on s'auto-autorisait à se déconfiner selon des règles extrêmement strictes et tout ça. Bon. Et je ne voyais pas bien ce que ce réel me disait dans mon présent, comme dirait Chantal, le présent était une sorte de masse difficilement analysable. Enfin, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et j'étais confiné dans un appartement, comme beaucoup. Et donc j'ai décidé de me décoller de ce présent-là pour imaginer ce que ce serait ce que serait ce monde-là, des confinements, des déconfinements, des auto-autorisations, des autocontrôles, de l'autosurveillance, de l'obéissance généralisée, mais dans 10 ans. J'ai décidé de parler de ce sujet-là en le projetant dans une dizaine d'années, voilà, pour effectivement me décoller de ce présent très oppressant, quoi. Voilà.
À une époque, c'était pas exclusivement, mais beaucoup la science-fiction qui s'emparait du futur. On avait quand même un genre littéraire, non pas que ça ne déborde pas dans les autres genres, c'est jamais des cloisons fixes. Mais ces dernières années, je ne sais pas, vous l'avez peut-être constaté aussi sur les tables des librairies, l'anticipation, les scénarios catastrophes arrivent de plus en plus dans d'autres littératures. Est-ce que pour vous, et vous-même, donc vous en êtes l'exemple, même si pareil, le polar a aussi fait des projections, mais est-ce que c'est un signe de quelque chose, un outil, cette abondance justement de projections dans le futur reflète quelque chose, dit quelque chose aussi de nous et d'une forme d'angoisse qu'on a besoin d'aller explorer?
Il faut dire qu'on vit quand même une période assez inquiétante, parce que on est informé de tout ce qui se passe. Enfin, on est surinformé et impuissant face aux informations qu'on reçoit. Et on n'est pas dans un élan dynamique de société qui serait en plein développement, comme on a pu connaître il y a quelques décennies, où on se disait il suffit de progresser, et puis peu à peu, à force de progresser, on vit de plus en plus longtemps, la vie est de plus en plus confortable, on est de mieux en mieux soigné, enfin bon, etc. Et puis depuis une vingtaine d'années, on ne croit plus du tout à ça. Donc on a envie d'interroger l'avenir, parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas. Donc il faut presque en recréer un. Et dans mon cas, c'est un second tome d'une fiction, puisque j'avais déjà publié une série noire qui s'appelait Nos derniers festins, qui est parue en 2019. Donc disons que j'ai écrit en 2017-18. Ma motivation n'était pas par rapport à, par exemple, par rapport à la pandémie, pour m'échapper de ce présent-là. C'était quelque chose de beaucoup plus général. Il me semble que, c'est-à-dire de s'interroger sur qu'est-ce qu'un monde quand les relations humaines sont à ce point dématérialisées, qu'est-ce que ça signifie pour les êtres humains, en fait, une absence de contact généralisé. Et là, je parle de choses qui existaient bien avant la pandémie. La pandémie n'a fait qu'accentuer quelque chose qui était... Voilà. Et je crois que ça fait une vingtaine d'années que, même que ce soit du polar ou des romans, il y a toujours une question sous ce que j'écris, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie de vivre dans un monde où on connaît mieux le présentateur de télé, l'animateur de télé, disons, que son voisin de palier, en gros. C'est-à-dire, humainement, où est le lien entre les hommes, comment on peut imaginer avoir des sentiments, que peut devenir la sexualité, enfin, etc. Donc Sens Interdit, bien sûr, moi je mets en scène une société de contrôle, où tout est où tout est chiffré, c'est-à-dire si vous passez trop de temps devant vos écrans, vous êtes pénalisé. Si vous consommez trop d'électricité ou d'eau, vous êtes pénalisé. On vous coupe carrément le courant, enfin, etc. Donc, pour des raisons qui sont tout à fait imaginables et compréhensibles, c'est-à-dire qu'il faut sauver la planète, donc il faut faire attention et on est obligé de mettre des règles strictes. Donc, du coup, ça crée plein de trafic, plein de délations, plein de bons, etc. Donc évidemment, je recrée un monde qui ressemble à un monde d'hier, qui est peut-être celui de la prohibition, etc., avec des éléments d'aujourd'hui, et finalement, ça donne un futur. Mais vous dites, par exemple, tout à l'heure, vous disiez c'est un futur exagéré, dans le cas d'Olivier ou de moi, mais on ne sait pas. C'est-à-dire que peut-être que quand on
peut-être
lira Olivier dans 10 ans et moi dans 25 ans, on se dira, mais qu'est-ce qu'ils étaient optimistes. Parce qu'effectivement, quand j'ai commencé ma trilogie, enfin ma série, disons, je n'imaginais pas la pandémie, je n'imaginais pas qu'un jour un fou allait nous menacer de guerre nucléaire, bon, etc. Donc, et je me dis, ben, heureusement que j'étais dans le futur et pas dans le présent pour écrire.
Il y a de ça aussi, hein, ce côté justement, peut-être besoin d'aller chercher tous, en fait, on a besoin d'aller, c'est pas chercher des réponses, mais se confronter à ça. C'est ce que tu disais, c'est effectivement une réaction immédiate dans le cas d'appartement 816 à la pandémie.
Oui, je dirais, et plus qu'un besoin, je dirais une urgence. Je pense que plus la situation est difficile, grave, questionnante, et peut-être ouverte sur un futur totalement tragique, plus il y a d'œuvres qui s'emparent de cette question. Et en ce moment, depuis quelques années, moi, je vois énormément de films sur des catastrophes climatiques, des guerres mondiales, des mondes absolument ravagés. Bon, là, je pense tout d'un coup à La Route, McCarthy, qui est pour moi un sommet dans la littérature de catastrophes. Et je pense que c'est, pour moi... Oui, c'est un besoin, mais enfin, le besoin n'est pas ce qui m'active le plus dans mon activité littéraire. C'est plutôt que je me sens responsable de répondre à une sorte d'urgence, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a eu des moments, peut-être dans le monde, où il était moins urgent de s'emparer, même avec... toute l'interprétation qu'on peut en faire d'un certain réel, moins urgent, oui, et moi je considère qu'actuellement il est très urgent de s'en emparer et d'apporter non pas des réponses mais des questionnements critiques sur, bon, bah, je vais pas raconter mon roman, mais voilà, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, pourquoi on est là, pourquoi on est uniformément dans une sorte d'obéissance totale. Je n'en remets pas du tout en cause la gravité du virus et la pandémie, etc. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que cette société qui nous rend de plus en plus face à nous-mêmes, comme si on était continuellement, quotidiennement en train de se regarder dans un miroir sans apercevoir autre chose que nous-mêmes, réduit à une sorte d'individualité totalisée, quoi. Et alors, on est tout seul, responsable de nous-mêmes. Ceux qui s'en sortent, ben, ils ont de la chance, ils ont réussi, ils sont méritants. Ceux qui s'en sortent pas, ben, c'est tant pis pour eux. Bon, voilà. Donc, moi, je me sens une responsabilité politique, disons, de m'emparer de ce réel-là, de le projeter 10 ans plus tard. Mais enfin, 10 ans, c'est demain Voilà, l'urgence est toujours là, quoi.
10 ans, ça peut passer vite, oui. Tu employais le mot obéissance. le futur que vous imaginez a un impact direct sur vos personnages. Didier Martin, on pourra en parler, lui, il l'accepte plutôt. On verra un peu quelle est la psychologie de ce personnage. Chantal Pelletier, dans ce livre, il y a plusieurs personnages, hommes et femmes, du côté de l'ordre et du côté de la société, enfin des gens ordinaires, on va dire. Je pense à Lou Madec, même si elle a un passé assez tumultueux. Quel effet, justement, pour parler un peu de vos personnages, quel effet a ce réel sur eux et sur elle, notamment, je pense, parce qu'elle s'y confronte et elle ne l'accepte pas totalement. Est-ce qu'on peut parler un peu de Anna et de Lou, qui, j'ai l'impression, font aussi des contrepoints en termes de trouver des petites échappatoires aussi, des façons de ne pas être totalement, de ne pas totalement subir ce futur.
Bah, c'est-à-dire que quand on est contraint, comme le sont les personnages du livre, par des lois, des obligations et des limitations sévères, bah, on s'agite. On s'agite pour voir jusqu'où vont les limites. Malheureusement, on est obligé de les franchir. Donc, c'est non seulement une agitation extérieure pour se débrouiller d'une situation, puisque, par exemple, quand on outrepasse une règle, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on aille faire des stages de récupération de points, il faut qu'on suive des coachings de réadaptation, et ça prend sur vos temps d'écran, ça prend sur vos temps, enfin, et donc vous ne pouvez jamais vous en sortir. Alors c'est un des sens, évidemment, du coup on emploie plein de fois le mot, des sens interdits, c'est-à-dire que tout est en impasse. Donc, voilà, c'est comme un rat ou n'importe quel animal qu'on met dans une impasse, et ben il tourne en rond et voilà, il devient agressif et agité. Mais à la fois, l'autre sens, c'est donc l'absurdité, c'est-à-dire il y a plus de sens, donc les sens sont interdits. Mais la première signification qui était importante pour moi, c'était l'absence de sensualité, c'est-à-dire on ne peut plus toucher. Humer, regarder, enfin, en tout cas pas directement, que par des écrans, etc. Même, bon, c'est un policier, donc même les policiers, par exemple, ils n'ont pas vraiment droit à la scène de crime. C'est des scientifiques qui viennent, qui relèvent tous les indices, qui les enregistrent, et eux, ils ne voient que les indices, comme un médecin qui ne verrait que des analyses et qui ne verrait jamais son patient, chose qui est en train d'advenir et qui adviendra de plus en plus. Donc c'est cette absence de sensualité entre les individus qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire le sans-contact et pas que de la carte bancaire. Et quand je lisais le livre d'Olivier, je me disais que, en fait, lui, il avait placé la coquille autrement, parce que la coquille, c'était l'appartement, c'est-à-dire donc qui était vraiment la coquille dans laquelle on est enfermé, etc. Alors que mes personnages, ils ont chacun leur coquille. Et alors, de temps en temps, il la perd. C'est vraiment, pour moi, comme des points de relais, comme ça, où il y a un moment, il y a un contact entre deux personnages, il y a un contact entre Lou et Patrick, le vieux dont elle s'occupe. Enfin, un contact entre Jeanne et Ferdinand, un contact entre Lou et Ferdinand, enfin, etc. C'est-à-dire, les points de contact, tout d'un coup, paraissent comme absolument miraculeux, alors que ce n'est pas du tout une sensualité débridée, c'est des choses extrêmement simples, simplement l'étreinte, même pas l'étreinte, oui, le contact, tout simplement, le contact physique, pas forcément sexuel, voilà.
Et donc Didier Martin, qui est le personnage principal, lui, la façon dont cette réalité le touche, ça lui va, il est assez effrayant pour ça.
Didier Martin, c'est un personnage qui vit confiné dans son appartement avec sa femme, son fils et son chien.
Et ses poissons.
Et ses poissons exotiques. Et donc il ne peut pas sortir, il ne peut pas ouvrir sa fenêtre, hein, c'est interdit d'ouvrir la fenêtre sauf à des horaires réglés comme du papier à musique pour se ravitailler, quoi, manger, attraper la boîte de maïs, la boîte de thon pour pas mourir de faim. Et c'est un homme qui a accepté totalement sa situation en détruisant en lui toute forme d'affect et toute forme de désir. C'est-à-dire qu'il ne désire plus rien que sa situation à lui, et il considère que les nouvelles règles qui régissent sa pauvre existence sont les bonnes. Voilà. Donc il n'a plus qu'à les accepter et les respecter et les défendre. C'est surtout ça qui est important chez Didier Martin, c'est qu'il c'est un vrai militant de sa propre perdition, quoi. Il pense que il est sur le droit chemin, que l'obéissance est la seule méthode pour vivre, et il a totalement oublié, mais vraiment oublié au sens de effacer de sa mémoire toute capacité de résistance à quoi que ce soit. Il ingurgite au lieu de régurgiter. Il accepte au lieu de résister. Et voilà, ce défaut de résistance l'amène à vivre ce qu'il vit dans cet appartement avec les membres de sa famille. Mais je ne vous dirai rien de ce qui s'y passe.
Non, effectivement, on est pour parler un peu genre littéraire, on est dans des polars, alors abordés, ce qu'on appelle aussi des romans noirs. Donc il y a une forme de suspense et d'intrigue. Hein. Alors chez Chantal, il y a effectivement un crime qui est le point de départ du livre et qui amène à avancer dans l'histoire. Mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est le monde autour, finalement, qui s'imbrique avec le crime de départ. Olivier, le crime a un sens à l'intérieur, mais on n'est pas dans la recherche du coupable, on est dans la découverte de cette folie intérieure. Le genre littéraire, justement, dans lequel vous vous inscrivez, il a du sens pour vous, ou c'est vraiment juste un support d'écriture, un outil, ou à la rigueur, vous ne vous posez même pas la question, c'est des questions éditoriales ensuite, où vous êtes attaché à l'endroit où vous êtes?
Moi, j'écris autant de romans que de polars, donc je n'écris pas systématiquement des polars. Disons, le roman noir, on est à la recherche de la transgression, de vraiment l'endroit où ça fait mal. Pour moi, c'est plus social, on est plus dans le poids de la société, de ses lois. Et bien sûr, c'est important parce que les personnages sont forcément extrêmement tendus parce qu'à partir du moment où on est dans un roman noir, tout personnage peut mourir. Enfin, je veux dire, c'est pas une question d'être de bonne ou de mauvaise humeur. C'est-à-dire qu'on peut mourir, quoi. On peut. Il y a l'idée du risque. Il y a l'idée de la chose grave. C'est important parce que ça crée une énergie pour l'écriture. Ça, on est obligé de cavaler après ça. Parce que à la fois c'est de la blague, parce que moi j'essaie de rigoler un peu dans mes bouquins, mais en même temps c'est pas de la blague, quoi. On est confronté à des vraies situations du réel, justement, et pas à des états d'âme. Pour moi, dans le roman noir, l'état d'âme n'existe pas. Il passe tout de suite dans une action. Dans un acte de violence, ou au contraire dans un acte d'être terrifié, ou etc. Mais c'est pas un état d'âme, en tout cas.
Olivier, c'est pareil. Tu écris dans différents genres. Vous avez un autre point commun, d'ailleurs, c'est d'être tous les deux comédiens. Vous me détrompez si vous agissez à travers plusieurs genres à tous les niveaux. Donc celui-ci en particulier représente quoi ?
Bon, moi, je En fait, ce que j'aime bien, c'est ne pas être catégorisé. J'écris des romans qui sont considérés comme des thrillers. Certains ont été publiés en collection blanche chez Fayard, par exemple Régime sec, qui est un roman publié en collection blanche. On m'a dit, ah tiens, on aurait dû le faire en polar. Bon, voilà. Chez Phébus, mon avant-dernier roman qui s'appelle Le sexe du ministre est un roman politico-fantastique. Et je ne suis pas publié dans une collection de science-fiction ou de fantastique. Donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de naviguer d'un endroit à un autre, d'être un peu insaisissable, un peu de vous glisser dans les mains comme un poisson, quoi. Enfin, et puis on verra bien ce qui se passe, quelle que soit la collection ou la case dans laquelle il est... peut-être nécessaire de m'isoler, mais voilà. Donc.
Vous avez tous les deux parlé de société sécuritaire et on parlait de l'utilisation du réel. Je voudrais vous lire juste deux tout petits passages pour un petit peu vous donner une idée de la façon dont l'une et l'autre vous vous emparez du réel et de ce qu'il va devenir. Alors, chez Chantal, il y a beaucoup d'interdits justement dans les sens et dans le quotidien. Et il y a le marché noir du Free Connect, les permis de table, temps d'écran, carnet d'approvisionnement, empreinte carbone, forfait énergie non connecté à la carte de sécurité sociale seront bientôt interdits. Ces Free Connect, distribués par les entreprises et les pouvoirs publics aux consommateurs méritants, alimentent de nombreux trafics et permettent à trop de citoyens d'échapper à la surveillance centrale. Appartement 816. Vérification faite sur le calendrier. On va bientôt entamer le 6e mois d'isolement général total. Un IGT qui a succédé à 6 mois d'IGSP, semi-partiel, et 6 mois d'IGP, partiel. Eux-mêmes ayant été précédés par des formes variées d'isolement, régional, local, pour un temps global de 30 mois. Tout au long de vos deux livres, il y a un côté ludique quand même là-dedans, j'imagine, pour vous aussi, d'aller piocher dans tous ces petits acronymes qui nous environnent, qu'on a dû intégrer dans notre quotidien. Et on sent quand même aussi il y a un plaisir là-dedans pour vous. À quoi ça sert, ça aussi, de réutiliser et d'extrapoler toutes ces contraintes? Comment vous avez joué avec?
C'est-à-dire, moi, entre chaque chapitre, il y a effectivement comme une sorte de fil d'actualité qui raconte un changement de loi, une information sur la fertilité des couples, enfin bon, etc. Et je trouvais ça, c'était en l'occurrence très réaliste par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, on vit vraiment complètement encadré par des informations, par des appels sur nos téléphones ou sur, enfin, pour ceux qui sont hyper connectés, qui sont au courant à la minute de tel événement, etc. Et donc, en fait, c'est ces petits flashs comme ça qui faisaient comme des pressoirs un peu entre les chapitres. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça.
Et ça plante un monde. Il y a le retour du lapin suite à la pénurie des récoltes, à la raréfaction des poissons et fruits de mer et à l'augmentation du prix des fruits et légumes. L'élevage, la consommation et la vente de lapins sont à nouveau autorisés dans notre région.
Oui, parce que dans nos derniers festins, on apprenait que le lapin était interdit pour de multiples raisons. Bon, pour le bien-être animal, parce que c'est des animaux charmants, parce qu'il y a eu... Bugs Bunny, enfin, etc. Ce qui est très très présent aux États-Unis, par exemple, on mange très peu de lapin à cause de ça. Et donc voilà, donc j'avais décidé que c'était interdit, mais là, effectivement, donc dans ce roman qui est justement un peu plus réaliste au sens où il faut quand même bien manger, ce qui risque d'ailleurs de nous arriver peut-être dans les mois ou les années qui viennent, il va falloir penser qu'il faut effectivement faire attention à notre à nos rations alimentaires, parce qu'on est extrêmement dépendant, non seulement sur le plan industriel, mais sur le plan agricole et donc alimentaire, de plein de choses. Et qu'on ne peut pas décider comme ça des préceptes quasiment religieux si facilement, quoi. Voilà. Donc c'est donc jouer avec ça. De toute façon, à partir du moment où on est dans une fiction, il y a forcément un jeu. Le jeu, quand Olivier joue avec le local, le régional, le national, bon, enfin, etc. Bien sûr, on s'amuse. Heureusement qu'on s'amuse quand on écrit, parce que les mots, c'est des jouets merveilleux, extrêmement précieux. Quand Olivier disait tout à l'heure qu'effectivement, aujourd'hui, en Russie, il y a des mots qui sont interdits, comme invasion, dictature, etc. Ben oui, les mots, c'est pas de la parlotte. Enfin, je veux dire, c'est vraiment nous. C'est vraiment l'humanité, quoi. Donc, bien sûr qu'on... On les choisit et on aime bien s'amuser avec eux. Et on espère que le lecteur en fait autant en passant. Mais bon, ça, c'est encore autre chose.
Moi, oui, ça a marché. On leur demandera après. Ces acronymes et ce jeu avec le réel, je pense notamment à ce site internet qui permet de faire plein de commandes où le nom a changé. C'est une matière ludique aussi de se réapproprier tout ça, de le transformer.
Ah oui, c'est très drôle, ça, parce que ça existe déjà, en fait. Il suffit de changer les noms, quoi. C'est juste une question de terminologie, parce que les sociétés de contrôle, elles fonctionnent par codification, hein. Donc on a tous, là, tous autant que nous sommes, vous, nous, des identifiants, des mots de passe, des je ne sais quoi, enfin bon, qui nous permettent d'accéder, d'entrer dans, d'être autorisé à, etc. Et dans ce roman, ça m'a beaucoup amusé, oui, de réinventer une autre codification, mais qui n'est pas plus liberticide que la nôtre, hein, véritablement. C'est une question de mots, quoi. Un peu plus, oui.
Je voudrais qu'on parle de plaisir aussi, parce que c'est un vrai contraste entre vos deux livres. Est-ce que c'est un signe de la mort de l'humain, ou je ne sais pas comment le voir, et vous pourrez peut-être nous dire, Didier Martin, on a l'impression que le plaisir est absent de sa vie. Et dans les personnages de Chantal, on parlait de sensualité, de sens, de nourriture. Hein. Je pense que la couverture est d'ailleurs assez, assez parlante. Il est important que le plaisir soit là. C'est une forme de je ne sais pas si résistance et lutte sont des mots qui iraient un peu loin, mais ce plaisir-là est très très présent.
C'est-à-dire que quand c'est interdit, c'est meilleur. Donc, dans nos derniers festins, c'était déjà ce que j'avais mis en place. C'était à partir du moment où il y a des permis de table, qu'on ne peut pas manger ce qu'on veut, en fonction de ses analyses médicales, etc., ben, on prend beaucoup plus de plaisir à goûter. Bon, parce qu'il faut dire que le livre parle presque exclusivement de nourriture, hein, puisque la plupart des relations entre les personnages passent par la nourriture. Évidemment, quand c'est interdit, c'est meilleur, et on fantasme les choses. Donc, à partir du moment où elles sont fantasmées, elles sont magnifiées. Et puis, quand on a l'occasion, par exemple, soit de cuisiner, soit de goûter, on le fait bien sûr avec beaucoup plus de d'ampleur, de nécessité. Voilà. Donc, enfin, c'était l'idée. Voilà. Mais en même temps, en s'amusant aussi, et ça c'était aussi le plaisir, c'est que dans nos derniers festins, bon, ce qui se poursuit ici d'une façon un peu plus dramatique, c'est que effectivement on peut s'amuser de dire qu'il y a des dealers de camembert et des trafiquants de foie gras, puisque évidemment le fromage au lait cru est interdit, le foie gras est interdit et tout ça. Et tout ça toujours pour de très bonnes raisons, hein, le bien-être animal, l'écologie, bon, etc. Mais il faut bien trouver son plaisir. Donc, du coup, le plaisir est peut-être un petit peu plus élaboré.
Mais même quelqu'un comme Anna, qui est du côté de l'ordre et de la loi, c'est elle, hein, qui est du coup. Oui, parce que quelquefois, je mélange les...
Bah, c'est-à-dire, elle est du côté de l'ordre et de la loi parce qu'elle est policière alimentaire. Mmh. Mais en réalité, c'est pas une policière très, très sévère, hein, parce qu'elle, elle prend toujours son petit pourcentage au passage. Elle n'est pas du tout un policier strict, au contraire. Elle est plutôt dans le bon sens de aller. Soyons sérieux, faut quand même pas exagérer. On peut trouver un juste milieu. Enfin bon, c'est plutôt c'est pas du tout. Je la vois pas trop du côté de l'ordre, malgré son métier.
Je voulais dire par sa profession.
Par sa profession.
Elle serait censée, mais voilà, elle s'autorise beaucoup de digressions.
C'est pas une rigide du tout.
Non.
C'est au contraire, c'est le gros sabot dans la boue. Et
le plaisir est très très important pour elle. Oui. On le voit bien. Je sais pas si vous connaissez la cytophilie. Non. Ben voilà, je vous en dis pas plus. Vous verrez, moi c'est quelque chose que j'ai découvert dans ce livre qui m'a beaucoup plu. Didier Martin, lui, la nourriture, c'est peut-être un signe justement, un espèce de symbole de son rapport au réel et de son détachement.
Bah, Didier Martin, il n'a plus aucun rapport au plaisir ni au désir. Il obéit. Donc il est dans un système qui souhaite qu'il n'ait que des affects tristes. Pour que ce système que je décris fonctionne, il faut que les gens soient tristes et qu'il n'ait plus aucun espoir de danser, de chanter, de manger un bon plat, d'échanger des idées, d'avoir de l'humour, d'aller au cinéma. Enfin, tous ces plaisirs de la vie, qu'ils soient artistiques ou culinaires, ont été rayés de la carte. Et oui, Didier Martin, lui, ça lui convient. Ça lui convient dans son existence. Didier Martin, il est dans une sorte de néant, quoi. C'est-à-dire qu'il pense pas. Il écoute les infos, il les ingurgite, et puis c'est très bien comme ça, quoi. Ça lui va, voilà. Il devient par là absolument monstrueux par cette absence de langage, en fait. C'est le langage qui lui manque, parce que c'est le langage qui nous fait désirer. C'est par le langage qu'on désire et qu'on construit. Lui, Martin, il désire plus rien. Donc, c'est pas la peine de parler.
Et ni de manger. Café, boîte de conserve.
Ni de manger.
Justement, je voudrais qu'on parle un peu d'écriture, parce que tu parlais du langage. Il y a un contraste là aussi qui correspond bien, je trouve. Il y a une adéquation entre la forme et le fond. C'est une volonté, c'est votre façon d'écrire. Comment justement ces textes sont pensés pour vous? Parce qu'on parlait de plaisir et de chair, on le retrouve aussi dans l'écriture, dans la multitude de dialogues, dans ces échanges très vifs entre les personnages. Chez Didier Martin, dans l'écriture d'Olivier Bordassar, on est dans quelque chose qu'on pourrait dire de froid et de clinique qui restitue l'état d'esprit du personnage. Je ne peux pas vous faire l'offense de vous demander si vous réfléchissez à la façon dont vous écrivez, mais comment vous le pensez?
J'essaye de ne pas trop penser quand j'écris, parce que c'est la chose la plus limitative qui soit. Donc j'essaye de trouver des personnages en fonction des situations que je crée artificiellement au départ, et puis donc parfois j'en change, je les bidouille, etc. Mais c'est souvent les personnages qui me donnent qui me montrent le chemin pour savoir comment écrire. Mais j'essaye de ne pas trop penser. Je me dis pas je vais écrire de telle façon ou je. Je cherche toujours le rythme parce que j'aime ça. D'abord, j'aime quand je le trouve, et puis j'aime quand je le lis chez les autres. J'aime beaucoup les écritures rythmées. Je trouve qu'il y a toujours trop de mots, donc j'essaie de trouver une forme. Brève pour qui dise ce que j'essaye de faire dire au personnage, de faire au personnage, mais sans trop de réflexion, en fait. Je dirais c'est plus musical et parfois psychologique que de la réflexion, quoi.
Alors moi, j'ai été confronté à quelque chose pour la première fois de ma vie avec ce roman. J'ai dû écrire toute la narration à la première personne du singulier, puisque c'est un journal. Donc le personnage principal dit « je ». Et dans tous mes autres romans, j'ai toujours utilisé la troisième personne du singulier, « il » ou « elle », parce qu'il me semblait que c'était la meilleure façon pour moi de donner un accès plus facile au lecteur pour entrer dans la souffrance du personnage quand on dit il. J'étais très bouleversé par ce que disait Blanchot à ce propos. Quand on dit il, la souffrance du personnage devient la nôtre. Quand on dit « je », il a une sorte de droit de propriété sur cette souffrance et on ne peut pas y accéder, on reste extérieur. Et d'ailleurs, enfin, là, je pense à Kafka parce que pour moi, c'est un sommet, mais Gregor Samsa ne dit pas « je souffre ». On lit « il souffre ». Et c'est parce qu'on lit « il souffre » qu'on peut entrer dans sa souffrance et qu'on peut entrer dans son état d'insecte. Et alors là, voilà, ça c'était très difficile pour moi parce que je me disais comment je vais pouvoir produire tout de même cette distance nécessaire entre le personnage et sa souffrance pour que le lecteur s'engouffre dans la brèche alors que je vais dire « je ». Et ben voilà. Ben je ne sais pas, c'est à vous de le dire. voilà, il dit je, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est un journal, j'étais obligé. Donc ça m'a. Alors, ce qui était très bouleversant aussi, c'est que j'ai réduit mon vocabulaire à vraiment quelque chose d'extrêmement pauvre, parce que Didier Martin est. Étant un homme qui a presque perdu le langage parce qu'il a perdu le désir de parler, enfin le désir de partager, il parle avec 300 mots en gros, hein. Donc il a un langage extrêmement pauvre, hein, extrêmement pauvre. Donc il fallait que je creuse avec cette bêche d'un langage pauvre dans une autre terre que le langage même, c'est-à-dire dans son cerveau, quoi. Comment ce personnage peut exister de cette façon-là? Comment on peut vivre dans un monde avec 300 mots de vocabulaire en bouffant du maïs et du thon tous les jours et en ne pouvant pas ouvrir sa fenêtre? C'est ça le challenge, quand même. Voilà.
Ça donne Didier Martin. Vos livres donc sont le résultat d'un réel, du réel, de l'impact que le réel a sur vous, a sur vos personnages. Tout à l'heure, je crois que c'est Olivier qui parlait de cette nécessité justement d'utiliser ça, de ce besoin de le sortir. J'aimerais bien qu'on parle un peu, je vais vous refiler une tarte à la crème, mais de l'impact que vous pensez ou de la fonction que vous pensez que ces histoires peuvent avoir justement en retour sur le réel. Alors si c'est pas sur le réel de notre monde, c'est peut-être sur les individus, sur les lecteurs qui sont là. C'est quelque chose qui est de l'ordre du possible pour vous, que vous avez en tête, parce qu'on n'écrit pas non plus ça complètement par hasard, sans peut-être se dire que ça sert au minimum à passer un bon moment, au maximum à laisser des traces chez le lecteur. Vous y pensez ou c'est pas votre truc?
Éventuellement, on y pense après coup. On se demande pas avant, parce que ça, je pense que ce serait trop paralysant, mais on y pense après coup. Je veux dire, quand j'écris Nos derniers festins, donc qui est le tome précédent, et Donc je mets en place le permis de table avec des contrôles, bon, etc. Je veux dire, quand la pandémie arrive et que bon, on est contrôlé, que en place, ensuite on y a des QR codes et tout ça, je veux dire, il y a des gens qui me disent, ben, dis donc, tu comme si j'avais vu ça. Enfin, j'ai pas du tout vu ça, mais je veux dire, c'était, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était mis en place dans ce roman et qui s'est retrouvé dans la réalité. Mais en fait, c'était parce que c'était déjà dans une réalité que j'avais un peu transformée à ma façon. Donc voilà, c'est les échos justement où on a beau être dans le futur, on est rattrapé par le présent. Voilà. Donc, mais c'est toujours après coup. Il y a toujours un moment. Le lecteur, lui, il a son livre qui n'est pas celui que vous avez écrit. Chaque lecteur a son livre, finalement. Chaque lecteur est un interprète de ce que vous avez écrit. Enfin, si vraiment il vous lit. Hein, bon. Et chaque fois que j'écris un livre, finalement, les lecteurs m'apprennent des choses sur ce livre que je n'avais pas vues, que je n'avais jamais imaginées, auxquelles je n'avais jamais pensé. Et je dis, ah bon, oui, c'est vrai. Après, il a raison. Probablement, il y a ça. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Donc, quel impact, ben, c'est, on est assez peu responsable de l'impact. Si on arrive au bon moment dans la vie d'un lecteur qui a envie de, qui tout d'un coup, c'est comme entre deux personnes, finalement, c'est-à-dire c'est une rencontre, ça se passe ou ça ne se passe pas. Et en tout cas, moi je serais multimilliardaire si j'avais le contrôle sur cet impact, parce que je me dirais, ben voilà, je voudrais avoir 300 000 lecteurs, et puis je sais pas, et trois fois plus à l'étranger, enfin je sais pas quoi. Je veux dire, non, je pense pas à ça. Les raisons pour lesquelles on écrit sont, enfin, faut quand même être modeste. Je veux dire, on n'a pas beaucoup d'impact. Mais bon, s'il y a trois personnes qui se posent une question de temps en temps, c'est déjà pas mal.
Olivier,
j'aime beaucoup la citation du philosophe Gilles Deleuze qui disait au début des années 90 que l'acte de création est un acte de résistance. Et je pense que, pour ma part, j'essaye de répondre humblement à cet appel, si vous voulez, pour de répondre à cet appel pour dire que effectivement il y a des choses auxquelles nous devons résister. Et peut-être que c'est très urgent, enfin, mais bon, je me fais tout petit là en disant ça, Gilles Deleuze étant au firmament, et il m'écoute, alors j'ai peur de dire des bêtises. Mais on n'imagine pas dans quel état serait le monde s'il n'y avait pas eu Arthur Rimbaud. Enfin, peut-être qu'on a, pour l'instant, on a échappé au pire, quoi, parce qu'il y a eu Arthur Rimbaud et Victor Hugo et Émile Zola. On n'imagine pas dans quel état serait le monde s'il n'y avait pas. Peut-être qu'on serait plus là, quoi. Hein. Donc je pense que mon activité d'écrivain, si petite soit-elle, dans mon petit bureau de l'Allier, sert un petit peu à quelque chose. J'aime le penser. Je ne dis pas que appartement 816 va changer quoi que ce soit à ce que nous vivons actuellement, mais je me dis que peut-être mes enfants ou mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants diront de moi, à un moment donné il y a eu ce livre et ça m'a touché, enfin ça a touché quelques personnes, et voilà.
À défaut de vendre 300 000 exemplaires et de devenir des superstars, voilà. Avec la littérature, c'est plus rare quand même. Peut-être que vous aviez des questions pour Olivier ou Chantal, ouais. Ou les deux.
Bonjour. Bonjour et merci pour vos interventions. Il y a un de vous deux qui a dit tout à l'heure qu'on avait besoin d'imaginer des futurs différents, justement, dans le contexte actuel. J'avais une question en tête. Comment est-ce que vous y prendriez si, pour écrire une utopie qui ne devienne pas une dystopie au bout de 100 pages et qui ne tombe pas non plus dans le côté mièvre que peuvent avoir certaines utopies?
Ce serait laquelle, votre utopie?
Ben moi, je pense que je n'écrirai pas d'utopie. Parce que si par bonheur un de mes romans avait un impact aussi extraordinaire qu'il puisse donner des réponses aux graves questions que je pose, ces réponses, ce serait la réalisation d'une certaine utopie qui est la vôtre, qui est notre utopie commune à nous. Moi, j'écrirais une dystopie, voilà, pour poser des questions graves sur notre présent et dans le futur, eh bien, peut-être que le résultat de cette création, ça serait une conscientisation de ce qui est bon, de ce qui est c'est très difficile de pas tomber justement dans la mièvrerie quand on parle d'un futur et du bonheur absolu de tous les peuples sur Terre, dans la concorde généralisée et le bonheur, l'amitié et l'amour. Mais c'est peut-être ça que j'ai envie de dire, oui. Peut-être.
Chantal.
Mais en réalité, je pense que dans le futur de nos derniers festins ou de Sens Interdit, bien sûr, c'est dystopique, mais il y a pas mal d'utopies. Et que déjà, si un certain nombre de choses que j'imagine se passaient, comme dans le livre, ce serait déjà pas mal. Par exemple, une des choses qui est assez fleur bleue et utopique, c'est d'imaginer que un couple, un jour, décide de prendre trois vieux qui sont largement nonagénaires pour leur éviter l'EHPAD et donc de créer une sorte de maison de retraite au rez-de-chaussée d'une maison avec une senior sitter qui les garde comme on fait finalement avec ses enfants, etc. Parce que bon, là, on ne parle plus du tout de ça, parce que là, on est sur une atmosphère de guerre. On a parlé il n'y a pas longtemps de ce qui se passait dans les EHPAD, etc. Et donc, voilà, par exemple, c'est un côté très utopique qui est dans le livre, parce que c'est effectivement ce couple de femmes qui a instauré ça, qui l'a fait, et qui finalement, même si ce n'est pas facile, va conduire ces trois vieillards qui font un peu jus léger, mais qui finalement ont une fin de vie assez idéale. Enfin bon, je m'imagine, si ça m'arrivait, je serais contente.
Choisie, oui. Oui, il y a une forme de communauté qui peut être cette utopie-là, qui irait aussi à l'encontre d'appartement 816 et de cet homme isolé dont on voit bien ce que ça produit. On va peut-être s'arrêter là, sauf si vous avez une dernière question. Sinon, on vous propose de les retrouver en signature. Ouais. Une brève question et on aura une brève réponse.
Non, moi, je n'ai pas lu voler parce que je ne savais pas que ça existait, cette table ronde, enfin, cette séance. Mais moi, je suis ex-ouvrier et aujourd'hui, on est très inquiet avec les grandes productions d'automobiles, de maladies, des grandes productions de maladies, d'êtres humains. Et je me demandais pourquoi ce besoin absolu de créer des personnages alors que la littérature en fourmille, quoi.
Pourquoi écrire, en gros? Non, pourquoi créer des personnages?
Oui, c'est une vaste question.
En plus, il va falloir faire des réponses courtes.
Et en plus, on va faire des réponses courtes. Donc, je ne crée pas des personnages, je crée des langages. Et c'est avec du langage que les personnages naissent et que les histoires naissent. C'est grâce au langage.
Et que ces personnages qui sont faits de langage, bah, ils disent mieux le réel que le journal télévisé, ça c'est sûr. Même un roman raté en dira plus que le journal télévisé, je pense.
C'est le pouvoir
grâce
de la
à ces personnages.
C'est la chair.
Parce que justement, c'est cette partie de matière qui échappe et qui construit quelque chose qui dit bien le réel.
Ça me paraît pas mal pour conclure. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis vous pouvez les retrouver donc à la table avec les livres pour continuer la discussion. Merci.